Qui n'a jamais rêvé de réussir du premier coup sans devoir recommencer? Mais soyons honnêtes, la réussite passe souvent par plusieurs essais. Et en pédagogie, c'est pareil. Heureusement, il existe des approches qui intègrent cette idée d'ajustement constant en tenant compte que tout projet peut évoluer et s'améliorer. C'est précisément pour répondre à ce besoin d'amélioration continue que sont nés les modèles de conception pédagogique. Leur but? Nous aider à travailler plus efficacement, à tirer parti de nos expériences et à capitaliser sur le savoir collectif de nos équipes. Dans cet épisode, je vous propose d'explorer ces différents modèles pour mieux comprendre leurs forces et leur contexte d'utilisation.
Les beaux rôles avec Géraldine Lussier.
Pour aborder ce sujet, je retrouve Marie-Noëlle Corriveau-Tendland, CP au Cégep de Lévis, et Alexandre Dalpan, CP à l'Université Laval. Bonjour à vous deux.
Salut.
Bonjour.
Les modèles de design, c'est pour moi un concept que je connais très peu. J'aimerais donc vous entendre sur le sujet. Comment avez-vous été introduit à ce concept-là, Alexandre?
Ben, perso, là, moi, j'ai trouvé ça, en tant que CP, avant, j'en avais pas vraiment entendu parler. Comme enseignant, en tout cas, c'était vraiment pas dans la nature, je dirais, des échanges que j'avais avec mes collègues. Peut-être parce que c'est en raison de la culture du métier de prof qui est très terrain. Les concepts théoriques et autres sont moins pratiqués, peut-être, en règle générale. Après, j'ai eu l'occasion de le pratiquer en tant que tel en l'enseignant à des étudiants qui étaient en formation pour devenir prof collégial. Je pense notamment au modèle ADI, hein, je sais pas si vous le connaissez, mais c'est un modèle de conception, finalement, d'ingénierie pédagogique qui propose 5 étapes consécutives. Puis chacune a un rôle important dans la progression et le succès d'un projet. C'est très pratiqué, hein, puis c'est un modèle, moi, qui m'a été très utile, notamment pour m'aider dans les choix des meilleurs outils numériques qui permettent de répondre à des projets, des besoins pédagogiques spécifiques avec des profs. C'est vraiment très structuré, assez simple à mettre en place. Plus récemment, j'ai eu l'opportunité aussi de découvrir le modèle Agile dans un projet que je coordonne avec d'autres collègues, comme CP à l'université. Puis ce modèle-là est un peu différent, c'est un modèle de gestion de projet qui permet d'apporter une souplesse, une performance, une efficacité dans des projets spécifiques, que ce soit en éducation ou dans tout autre domaine ailleurs, en fait. Toi, Marie-Noëlle, est-ce que tu as déjà utilisé ce genre de modèle dans ta pratique?
Et dans le fond, mon premier contact, c'est surtout très théorique dans mes formations à Performa, où on nous met en contact avec différents modèles, parmi ceux que tu as nommés, entre autres. Mm-hmm. Là. Puis on les applique à des cas concrets, des cas vécus, mais ça reste quand même un peu désincarné dans le cadre d'un travail universitaire à faire, donc un peu à côté du quotidien. Par contre, dans ma pratique, au Cégep, on a mis en place une communauté de pratique et on s'est appuyé sur le modèle SOTL, dans le fond, le Scholarship of Teaching and Learning, qu'on pourrait traduire à peu près par avancement des connaissances en enseignement et en apprentissage. Hey, c'est un peu comme ça qu'on l'a traduit. Et donc, ça nous a permis, tu sais, l'utilité d'aller s'appuyer sur un modèle comme celui-là. Moi, personnellement, ça m'a permis de mettre du concret puis du pratique à une formation théorique. Mais ça nous a permis aussi, comme animatrice de la communauté de pratique, parce qu'on est deux, de permettre à nos participants, nos participantes, de suivre un processus d'appropriation des connaissances puis de changement dans leur pratique qui est vraiment itératif. Puis c'est toute la beauté de ce modèle-là, je trouve, dans le fond, de faire une boucle de réflexion.
Mais c'est le principe de boucle qui fonctionne bien. Hein. Tu pars sur des étapes, mais tu arrives toujours, tu reviens des points de départ un petit peu pour te reposer des questions sur ce que tu as fait. T'sais, personnellement, moi, je trouve que ces modèles-là, tu en as parlé, ça permet une meilleure organisation au niveau du travail individuel, mais aussi en équipe, surtout, ça facilite ça. L'aide à la prise de décision, est-ce que c'est la meilleure décision, mais du moins, on se pose des questions, ça structure la réflexion. Ça permet d'éviter ou du moins de limiter les erreurs. Tu sais, dans la mise en place de projets, on va voir plein d'écueils, des choses auxquelles on ne pense pas. C'est des modèles qui permettent de te poser ces questions pour éviter ces coins morts. Ça donne un cadre aussi. Moi, je pense que globalement, ça donne un cadre. Puis à la fin, la finalité, c'est quoi? Ben, c'est de permettre une meilleure adhésion au groupe. Ça, je vous garantis que ça marche, effectivement.
Je peux donc très bien imaginer l'utilité de ces modèles quand on développe les processus là, liés à la qualité des programmes. Mais j'aurais quand même peur que ça demeure un petit peu trop théorique. Est-ce que je me trompe?
Ben, oui, peut-être ça l'est un peu théorique. C'est sûr qu'il y a toujours une différence entre l'importance qu'on va donner entre l'expérience de terrain, le vécu, puis les données probantes, là, l'efficace, on montre que ça fonctionne. C'est pas tous les profs qui adhèrent au modèle de design non plus. Puis j'ai déjà rencontré des profs qui trouvaient le processus ADI, par exemple, trop long, et qui souhaitaient aller plus vite en sautant certaines des étapes, puis ça marche pas dans ce modèle-là. Il faut vraiment y aller de façon itérative. Je pense que si on veut tirer parti de ce genre de modèle, faut pas négliger le besoin d'accompagnement, d'explication des profs. Faut bien qu'ils comprennent le modèle, qu'ils comprennent l'intérêt pédagogique du modèle, puis des fois, on va aller trop vite. Et c'est bien d'être transparent dans notre processus, dans notre façon, je pense, de les accompagner, expliquer pourquoi on utilise ce modèle puis comment on l'utilise. Ça facilite grandement l'adhésion, selon moi, puis ça permet d'atteindre les objectifs fixés avec le groupe. Je ne sais pas si toi, Marie-Noëlle, tu as vécu des choses de même.
Ben, en fait, je te dirais que le défi, pour moi, dans le fond, c'est de pouvoir utiliser le bon modèle en fait, le modèle le plus pertinent, là, je veux dire ça comme ça, là, selon le cas qui nous est présenté, selon le cas qu'on a à travailler avec le prof, mais sans le rebuter, le prof. Fait que, oui, lui expliquer, mais faut qu'on soit... Oui, c'est ça, faut qu'on soit comme les facilitateurs. T'sais. Tu vas voir, ça va glisser, puis ça va bien aller. Finalement, en faire presque comme un automatisme pour nous, mais aussi pour les profs, pour qu'ils puissent le réutiliser sans qu'on soit toujours là à côté d'eux.
Dans un monde idéal, oui.
Oui, effectivement, que ça soit comme un outil intuitif, qu'on ne sent plus le besoin de le nommer. Fait que oui, tu disais bien l'expliquer puis le présenter au prof, mais à un moment donné, c'est intégré, puis on devient super efficace. Puis là, c'est là toute la beauté du processus itératif qui se met en branle puis qui tourne finalement.
C'est très intéressant tout ça. Je pense que je vais le mettre sur ma liste de concepts à approfondir. Merci à vous deux.
Merci.
À bientôt.
Merci beaucoup. Salut.
Je reçois Samuel Fournier-Saint-Laurent, conseiller pédagogique et responsable de la recherche scientifique et de l'innovation pédagogique au Collège UNSIC. Prof de chimie encore actif, il détient une maîtrise en biotechnologie et un doctorat en éducation. Détail intriguant, une affiche de la loi de Murphy est bien en vue dans son bureau, preuve qu'il est toujours prêt à faire face à l'imprévu, même dans ses pires scénarios. Bonjour Samuel.
Bonjour.
Donc, t'es bien préparé pour une entrevue catastrophe?
100%.
Super. Quelles sont les similitudes entre la réalité de l'entreprise et celle de l'éducation sur lesquelles on peut s'appuyer pour implanter ces modèles de design?
Il y en a beaucoup. Si on prend le temps de reculer et qu'on regarde de loin, on conçoit des produits et des services dans les deux cas. Une usine qui fabrique des clous, ça, c'est loin un peu. Ça, c'est loin de nous. Mais il y a des entreprises qui offrent des services de consultation aussi avec des visées pédagogiques. Et puis, notre matériel pédagogique, ce sont des produits. J'ai réalisé ça dans un cours qui était donné à des conseillers en services adaptés. Ils devaient adapter un manuel, puis vraiment le caractère produit consommable de ce qu'on fait là, m'est sauté aux yeux. Et même une feuille de consigne qu'on distribue en classe, on peut l'aborder comme du matériel, comme un produit à concevoir avec des fonctions d'utilité, des fonctions de contrainte. Ben, mon étudiant Carl est daltonien. Il ne faut pas être créatif avec
les couleurs.
Les couleurs, merci. Et même des fonctions d'estime, chose qu'on fait moins, là, des fonctions d'estime dans notre matériel, des éléments complètement inutiles pour le produit lui-même, mais qui le rendent attrayant, qui donnent l'impression que ça fonctionne bien, etc. Donc, ces trois fonctions-là, on les retrouve dans un modèle, l'analyse de la valeur qui a été adaptée pour l'éducation.
Est-ce que c'est des modèles qui peuvent s'appliquer à tous les ordres d'enseignement?
Oui, je les ai vus appliquer, moi, aux ordres primaires, cégep et université, pour ma part. C'est naturel, là. Je pense que ça s'applique partout, là, parce que les modèles de design sont centrés sur les besoins ou sur le contexte particulier. Là. Dans Adier, par exemple, la première étape, c'est celle de l'analyse du contexte. Tout part de là. Pour le modèle qu'on pourrait traduire par un caillou dans la mare là, de l'auteur Merrill, ben, le point de départ de ce modèle-là, c'est une description de ce qu'on veut que la personne étudiante fasse à la fin de l'activité. Pour un autre modèle ou une autre approche, là, le design thinking qui est populaire ces temps-ci, ben, ça commence par l'étape de l'empathie. Donc, à chaque fois, le point de départ, c'est vraiment le contexte qu'on a en face de nous.
Samuel, comment tu justifies l'investissement en temps et en ressources qu'exige une approche systématique en design pédagogique?
Cette question-là est souvent abordée en design pédagogique. Elle est encore pertinente, même dans les écrits. Et je suis convaincu, moi, que le recours au design pédagogique, bien, c'est pas du travail en plus. C'est pas quelque chose qui s'ajoute ou une couche compliquée. Et en fait, si je te dis, là, Géraldine, là, analyse de la situation pédagogique, dresser un plan de l'activité, créer du matériel.
C'est toutes des choses qu'on fait tout le temps.
Ben oui. Et donc, ce que je viens de faire aussi, c'est de te donner les grandes étapes qui appartiennent à des modèles de design. Donc, c'est des choses qu'on fait déjà en grande partie. Ces modèles-là nous offrent une structure, quelque chose d'un peu plus guidé, tout simplement pour faire le travail. Ben, j'ai une hypothèse, en fait, sur pourquoi on trouve que c'est quelque chose d'additionnel. C'est que souvent, quand on fait le design d'un cours ou d'un produit, c'est créatif. On est dans l'élan, c'est le fun, on va dans ce contexte-là. On nous dit, ah non, on va s'arrêter puis on va faire l'analyse de la situation. Mais là, c'est comme une perte de temps, c'est comme si on nous retenait. Il y a un peu de ça là, dans cette idée que c'est quelque chose en plus, que c'est quelque chose de compliqué.
OK. Comment on peut mettre en pratique ces modèles à l'échelle du CP ou de l'enseignant?
Comme geste concret, comme CP, je vais prendre par exemple le modèle ADI ou ADIE et on va simplement écrire l'acronyme sur une feuille. On écrit chaque étape. Donc A pour analyse, D pour design, D pour développement, le I pour implantation, évaluation. Puis on se promet tout simplement de passer à travers ces étapes-là. Et quand une étape est terminée, on revient à la précédente. On revient voir ce qu'on a écrit là, pour voir si c'est, il y a des liens pertinents.
C'est itératif.
C'est ça, et c'est itératif, exactement. Et juste ça, c'est un très bon premier pas là, pour faire un design pédagogique. Et quand je rencontre des collègues profs pour un nouveau projet, moi, c'est ça que je fais. Je commence par le A. Donc, je pose des questions. Peu importe si c'est dans un cours ou un projet pédagogique, là, ben, c'est pourquoi tu fais ça, c'est quoi la durée de ton activité ou de ton projet, dans quel cours c'est, etc. Je pose des questions. Mais en même temps, je prends des notes puis je fais mon analyse. Et ça peut prendre comme ça la forme d'une discussion très informelle. Comme CP, ben, ça me permet aussi de faire l'exercice de me placer en posture d'écoute, tu sais, dès le début. Et je me suis rendu compte avec l'expérience qu'il y a des gens qui sont très pressés de créer, sont très pressés de produire quelque chose, une feuille, etc. Et là, cette période-là, elle passe naturellement. Je ne suis pas obligé de les retenir en arrière en disant « ben là, on va faire l'analyse, OK, on arrête tout, on fait l'analyse. » Et elles ne s'en rendent pas compte.
C'est ça, on le garde en tête, mais oui. Ça se fait naturellement. Là.
Exactement. Et ça, ça fonctionne assez bien avec les gens pressés.
Et c'est quoi les avantages de l'utilisation de ces modèles-là?
Ah, j'en vois plusieurs. Pour ma part, là, ces modèles-là m'offrent une belle structure de travail. Je passe à travers chaque étape, je sais quoi faire. Si je travaille avec quelqu'un d'autre aussi, avec, dans une équipe, avec des gens qui sont plus spécialisés dans les aspects techniques, bien, ça nous fait un modèle pour échanger ensemble. Tu sais, un projet en éducation, là, tu le sais, là, ça prend un nombre fou de variables. Il faut tout tenir compte de ça dans notre tête. C'est facile d'être submergé, mais ces modèles-là, moi, m'offrent l'opportunité de me concentrer sur certaines étapes. Ces modèles-là aussi proposent des outils puis deviennent quelque part comme des listes de vérification à certains moments pour rien oublier. Donc ça aussi, là, c'est un côté très sécurisant et rassurant. Là. À la fin d'un processus, on peut se dire, ouais, ça c'est de qualité. Là. On a vu plusieurs erreurs, on les a éliminées, là, on pense que c'est meilleur. Puis un autre point positif, c'est quelque chose qu'on fait moins. Tu sais, je disais, on fait déjà certaines étapes, mais il y en a une qu'on ne fait pas beaucoup, c'est celle de l'évaluation du design.
En effet.
Ouais.
On la laisse souvent de côté.
Exactement. Et tu sais, c'est pas quelque chose, ces modèles-là nous offrent aussi une vision parfois. Là, tu sais, l'évaluation, c'est pas une étape supplémentaire, c'est pas quelque chose qui vient à la fin, c'est pas un questionnaire aux étudiants. Tu sais, ça peut être fait à travers des traces qu'on a ramassées pendant l'activité, okay. Ou pendant le projet. Donc ça aussi, c'est super important. Puis, j'ai une anecdote sur l'évaluation qui a vraiment marqué mon travail. Moi, c'est en conférence, un prof de physique qui nous raconte qu'il a distribué en classe un test au début et à la fin de la session. On était en physique mécanique. Puis, il était très intéressé par les gains dans l'apprentissage. Donc, naturellement, il se dit, mon enseignement était positif, a permis aux gens d'apprendre. Donc, je vais regarder les questions où il y a eu le plus d'apprentissage. Et il s'est rendu compte qu'il y a une dimension où, en fait, les gens avaient mieux répondu au début de la session qu'à la fin.
Ouh! Belle surprise!
C'est ça. Donc, j'ai nuit à l'apprentissage. Ouais. Quelle honte! Et c'était présenté de manière très ludique. Là. Il y avait de la candeur là-dedans et il s'en dégageait. Hein. Tu sais, c'est très professionnel comme exercice. Moi, ça m'a vraiment marqué. J'ai vraiment aimé le côté objectif, professionnel de la démarche et ça m'a convaincu que l'évaluation, il faut vraiment la garder.
Ouais, ouais. Samuel, comment tu vois l'évolution de ces modèles avec l'arrivée de l'IA et des nouvelles technologies?
Ah, c'est une grande question. Hein. Qu'est-ce qui nous attend dans le futur?
Boule de cristal?
Oui, oui, un peu. Hein. Mais si je parle de quelque chose qu'on a, c'est des outils de design, CourseFlow, par exemple, qui est proposé par la communauté Sorties, ou Outils d'aide à la scénarisation, qui est publié, on peut le trouver au CCDMD. Ces outils-là sont fort intéressants d'un point de vue design. Ils nous permettent de nous guider à travers les étapes, à travers une série de questions. En fonction de nos réponses, ils vont nous proposer des choses. T'sais. Je veux une activité où on apprend une procédure. Je veux qu'on travaille de manière plus individuelle avec beaucoup de technologies. Ben là, Outils d'aide à la scénarisation va vous dire, essaye l'otoscopie. Il va nous proposer des trucs comme ça. Moi, je regarde le futur puis je me dis, on prend ces outils-là et on ajoute de l'IA, on ajoute de la personnalisation, on ajoute des prédictions, des conseils mieux adaptés et ça me rend enthousiaste quand même.
Donc, l'IA, ça peut devenir des bons assistants?
Oui, des bons assistants, mais il y a aussi une autre dimension qui, elle, me passionne beaucoup. Là.
Okay.
C'est l'IA peut aussi nous apprendre. Et là, je te donne un exemple concret. C'est une expérience qui a été publiée en Nature Computational Science.
Okay.
Okay, c'est une expérience en physique. C'est un pendule, un double pendule. Ce pendule-là, ben, il faut imaginer, là, c'est une corde accrochée au plafond, mettons, avec un ballon au bout. Puis au bout de ce ballon-là, double pendule, on a une autre corde avec un autre ballon. Puis là, je te demande de donner un bon coup de pied là-dessus. ça spinne. Et c'est ça, un double pendule. On a des opérations mathématiques, on a des formules mathématiques pour tout prédire ça. Mais là, on l'a donné à l'IA, sans formule, puis on a dit, regarde la vidéo, puis vas-y, lance tes modèles de prédiction, apprends. Et on a ouvert la boîte après, puis on s'est rendu compte qu'il y a deux variables. On pouvait les lier sans problème à nos formules mathématiques, mais il n'y en a aucune idée, pas capable de les relier. Et ça, je te donne cet exemple-là pour faire le lien avec d'autres systèmes qui sont utilisés cette fois-ci en éducation et qui apprennent de nos étudiants. Ils vont proposer une série d'épreuves, de questions, d'exercices. En fonction des réponses, ils vont proposer d'autres exercices puis vont dresser dans leur base de données des profils d'apprenants très, très, très personnalisés. Puis je suis sûr que là-dedans, dans ce genre de système-là, on peut avoir éventuellement des variables que nous, on n'a jamais vu.
Qui nous, ça nous permet d'apprendre, là,
exactement,
vraiment.
Exactement. Et là, moi, j'ai vraiment hâte de voir comme CP, si je fais un projet, je commence un projet, j'aide un prof. Et là, l'IA vient pas seulement me soutenir, me dire « Ah, t'as oublié telle affaire », mais elle vient vraiment me dire ben, « Moi, j'ai détecté avec ma manière de fonctionner, avec ma vision d'IA, des affaires que tu sais pas, puis voici ce que
proposer
tu pourrais
faire. » Proposer
des choses nouvelles. Ouais, ça, j'ai... Vraiment, ça va être le fun.
Je sens l'enthousiasme.
Oui.
L'IA peut, oui, être un bon assistant, mais comme tu as dit, ça peut aller au-delà de ça puis nous proposer des nouvelles. On peut apprendre de ça. Je réalise qu'on applique déjà beaucoup d'étapes dans ces modèles, là, que ce soit de façon consciente ou inconsciente. Donc, à la place d'avoir l'affiche de la loi de Murphy, moi, je vais avoir les 5 lettres du modèle Adier. Merci beaucoup, Samuel.
Merci, merci beaucoup.
La série balado Les beaux rôles est une création d'Immersion CP, soutenue par le ministère de l'Enseignement supérieur et l'Université de Sherbrooke. Animation, Géraldine Lucier. Co-animation, Alexandre Dalpan et Marie-Noël Corriveau-Tendland. Scénarisation, Félix Arguin. Réalisation, Phonique. Merci à nos invités pour leur contribution.